Vous écoutez Transversal, c'est un parc à l'écosystème unique qui se meurt en Espagne. Le parc national de la Doñana en Andalousie est protégé depuis les années 60. C'est un lieu unique où les visiteurs peuvent découvrir des écosystèmes très variés, des marais, des lagunes, des pinèdes et une trentaine de kilomètres de plages vierges. Et puis une faune unique aussi avec plus de 500 000 oiseaux d'eau qui viennent s'y installer chaque hiver. Mais voilà, le parc de la Doñana se trouve dans une région où l'on produit énormément de fraises sous plastique à destination de toute l'Europe. Des méthodes d'agriculture intensives y sont utilisées et elles ont inévitablement des répercussions négatives sur l'environnement local. Sans compter que cette production de fraises est très gourmande en eau. Or, en raison du réchauffement climatique, les pluies se font de plus en plus rares. Alors les producteurs n'hésitent pas à creuser des puits cachés, des puits illégaux, quitte à mettre en péril l'équilibre de toute la région. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage de Mélanie Nunez, réalisé par Christian Morero de la Radio-Télévision Suisse. C'est un reportage diffusé une première fois le 21 septembre dernier.
Là, on arrive dans la zone agricole autour d'Almonte et on voit partout autour de nous des champs à perte de vue, des serres de fruits rouges. C'est vraiment une campagne très éloignée de tout village, toute ville. On voit des serres à perte de vue avec des bâches en plastique au-dessus, ce qu'on a tendance d'ailleurs à appeler la mer de plastique. Et donc là, on passe juste à côté de toute cette zone agricole, justement, avec que des serres partout.
Fresas fresitas listas para consumir. Attention! Tenemos fresa fresa, rica fresa.
Vous voulez voir les exploitations, les puits et les réservoirs aussi? Alors suivez-moi et à un moment je vous ferai signe pour qu'on s'arrête. Ça sera là.
Ok, vale.
Vous allez voir des puits illégaux, mais aussi l'impact de la colonisation des cultures, des fruits rouges.
Là, nous suivons Juan en voiture, qui est l'activiste écologiste, et il va nous conduire justement à des puits illégaux. Des puits évidemment très cachés, donc on ne peut pas les découvrir tout seul, il faut être accompagné.
Je suis Juan Romero, membre d'Écologie en Action. Je représente cette organisation au sein du conseil d'administration du parc national de Doñana. On est dans la province de Huelva et dans la zone de culture de fruits rouges cultivée en pleine forêt et recouverte de plastique sur environ 11 hectares.
Donc là, on est en train de chercher d'autres puits qui seraient cachés parmi la végétation qui est très sèche. Il y a juste des petits arbustes sans feuilles. C'est un peu désertique. Et donc ça, c'est... Ah si, c'est las fresas. On voit les fraises là, ici.
Des fraises, oui, en ce moment, au mois de janvier. Et qui sont mûres en plus. C'est pour ça que les entreprises agricoles qui les cultivent peuvent déjà en vendre sur le marché européen. En ce moment, en Europe centrale ou en Europe du Nord, la production est impossible. Alors qu'ici, elles mûrissent plus vite. C'est pourquoi on peut trouver des fraises espagnoles dans les marchés plus tôt que les autres. Et c'est là l'avantage. L'avantage et l'intérêt que ces producteurs ont pour l'agriculture. Mais il y a autre chose à côté, un puits.
Ici, c'est le pozo? Ici, il y a un puits qui est utilisé.
Si, ce pozo lo estamos utilizando.
Mais est-ce un pozo illégal? C'est un puits illégal?
Ce pozo, possiblement, c'est un pozo illégal.
Ce puits est sans doute illégal, parce qu'il se trouve à l'intérieur d'une butte. Et cette terre appartient à la Junta de Andalucía, à la région andalouse. Elle est donc publique. Mais il semble bien que le gouvernement l'ait tolérée, parce que ces productions créaient des emplois dans les villages et que de nombreuses personnes y travaillaient. C'est donc au nom de l'emploi que les communes ont autorisé l'occupation et la destruction des ressources naturelles. Ce modèle existe depuis 30 ans et il a tout changé, radicalement. Ici, c'est un bassin d'irrigation. Des comme ça, il y en a sans doute plus de 1000 dans la région. Chaque ferme en possède un. Les producteurs font un puits, couvert, dissimulé, et à côté, ils font un réservoir où s'accumule l'eau récoltée. Quelqu'un vient, on peut avoir des problèmes.
On doit partir ?
Il faut que vous compreniez. Ils font un trou dans le sol, puis mettent en place un tissu géotextile complètement imperméable pour retenir l'eau. Et à partir de là, ils la distribuent dans les différentes zones de leur exploitation. Chaque ferme possède un bassin comme celui-ci.
Combien il y a de litres à peu près ?
Il peut y avoir environ 20 000 mètres cubes d'eau, mais il existe des bassins qui peuvent accumuler jusqu'à 4 hectomètres cubes, l'équivalent de 4 millions de mètres cubes d'eau. Ici, ce sont encore des fraises. Et on voit bien que les serres où elles poussent se sont développées de manière désordonnée. Il y a eu une explosion de désordre ici. Les agriculteurs n'étaient pas propriétaires des terres, mais la production de fruits rouges a vite intéressé les marchés européens. D'autant plus que c'était très rentable, notamment parce que la main-d'œuvre ne coûtait pas grand-chose. C'est pour ça que tout le monde s'est mis à semer et planter partout où il le pouvait. Les communes qui étaient et qui sont toujours propriétaires des terrains ont autorisé la culture à grande échelle au détriment de la forêt. On a abattu des pins et planté des fraises à la place. Et en plus, l'eau provient du sous-sol, donc elle ne leur appartient pas non plus. C'est le même réseau d'eau souterrain qui alimente les écosystèmes du parc national de Doñana. Ce modèle agricole qui approvisionne 90% des marchés européens, Allemagne, Angleterre, France, brûle, détruit l'espace. La cathédrale de la biodiversité, Doñana, est en train d'être détruite. Doñana est sèche depuis au moins 3 ans. Il y a non seulement un manque d'eau de plus en plus criant, mais aussi une pollution et une surexploitation des eaux souterraines.
Et comment se explique este? Comment on explique cela? Est-ce por causa de los pozos ilegales o tierras ilegales? Est-ce que c'est à cause des puits illégaux, de l'exploitation illégale?
Es consecuencia de los pozos ilegales y de los legales.
C'est une conséquence des puits illégaux et légaux, du modèle industriel choisi. Un modèle qui exclut les petits agriculteurs au profit d'une forte rentabilité économique. Il n'y a pas de gestion de l'activité et les lois censées protéger le territoire ne sont ni appliquées ni respectées. Chacun peut prélever de l'eau comme il l'entend, autant qu'il le veut. Et pourtant, ces puits ne sont pas autorisés, ils n'ont pas de compteur, ce qui signifie que les agriculteurs qui s'en servent ne paient pas l'eau. C'est vrai aussi pour les puits légaux d'ailleurs, qui pour la plupart n'ont pas non plus de compteur. Non seulement les agriculteurs n'ont aucune limitation, mais en plus ils ne paient rien.
C'est une question politique también, c'est une question politique en fait cette solution.
Doñana está super protegido, tiene todas las normas de protección.
La région de Doñana est en fait super protégée. Elle possède sur le papier toutes les réglementations de protection qui existent dans le monde entier. Ce qui manque à la protection de Doñana, c'est la bénédiction du pape. C'est un parc européen, un site classé au patrimoine mondial de l'humanité, et pourtant c'est là que les lois ont été le plus violées et que ce modèle productiviste a pu se développer de manière complètement désorganisée.
Comment construyen-elles los pozos? Comment ça se construit un puits ici?
Il existe plusieurs modèles. Il y en a qui ressemblent à un tube d'environ 40 cm de diamètre, mais aujourd'hui on en découvre de nouveaux, toujours plus grands. Ces puits sont le plus souvent creusés à l'aide d'une foreuse. Ils s'enfoncent toujours plus loin dans le sol, et quand ils atteignent une profondeur de 30 à 40 mètres, on y insère un système de pompage ou un système électrique pour transporter l'eau sur des kilomètres. Autrement dit, des puits ont été creusés pour pouvoir atteindre les nappes souterraines du parc national, et à partir de là, acheminer l'eau vers les cultures de fraises légales ou illégales. Les autorités régionales reconnaissent officiellement l'existence de plus de 1000 puits, mais il y en a sans doute plus de 2000 qui sont illégaux, sans compter les bassins d'irrigation, comme ceux qu'on a vus, qu'on estime, je le répète, à 1000. Il y a en tout 9300 hectares de terre qui sont autorisés à la culture, mais il y en a 1900 qui ne le sont pas. Et les communes ne s'en préoccupent pas parce que ces zones se situent en dehors des terrains légaux de production. Et pourtant, ils se trouvent dans une réserve protégée qui n'a pas le droit d'être exploitée par l'agriculture. Il y a donc 1900 hectares de parc national qui sont cultivés pour la production de fraises de manière complètement illégale.
Est-ce que ça peut se construire en une heure ou deux heures ?
Un puits peut être creusé en une nuit et être prêt à l'emploi. Par exemple, ici, on peut voir que des entrepreneurs agricoles ont coupé des arbres et en moins d'une semaine ont créé une ferme. En décembre, la culture des fraises commençait. Ces cultures s'adaptent très bien à ce type de climat. Des fraises sont bien produites en France, en Suisse, en Allemagne, dans tous les pays, mais ici, elles poussent plus tôt.
Ici, c'est une zone d'arenas, d'arcilla.
Regardez ici, c'est une zone de sable et d'argile, mais il y a tellement de puits et d'eau puisée que le niveau de la nappe phréatique est très bas en ce moment, à peine 20 mètres. C'est un désert. Vous allez vous promener ces jours à Doñana, vous visitez l'intérieur du parc et il n'y a pas d'eau, c'est sec. Les oiseaux qui hivernaient, les oiseaux aquatiques, les grues venaient ici avant. Un demi-million et même plus s'arrêtaient pour passer l'hiver. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'à peine 80 ou 90 000 oiseaux.
Donc là, on passe à côté des abris où vivent justement les travailleurs. C'est juste quelques bouts de plastique et quelques bâches en tissu. C'est très, très, très précaire.
Contratan a población migrante que tiene papeles, pero hay otra población migrante que no tiene papeles y no se pueden contratar.
Les producteurs embauchent des travailleurs immigrés en règle, mais il y a aussi une autre population migrante qui n'a pas de papiers et qui ne peut pas être officiellement embauchée. Parce que si des inspecteurs du travail venaient faire des contrôles, ils seraient aussitôt expulsés. Donc ça se passe autrement. Le week-end, la nuit, ces travailleurs immigrés qui n'ont absolument rien sont prêts à faire ce genre de travail. Les patrons de ces exploitations leur donnent un salaire. Ils peuvent les payer comme ils veulent. C'est comme ça que ça se passe ici. Il n'y a plus de main-d'œuvre espagnole ici, car le travail est très précaire et difficile. Elle est remplacée par les travailleurs qui viennent d'Afrique, du Maroc, du Mali, du Sénégal. Et le problème, c'est que la plupart d'entre eux viennent sans papiers. Ici, ils n'ont ni droit à l'eau potable, ni à l'électricité. Ils construisent donc leur propre maison avec les déchets agricoles qui viennent des serres. Ce sont vraiment des maisons habitées. La température peut y atteindre les 40 degrés pendant les mois d'été. Ces travailleurs sont victimes de nombreux incendies et vivent dans des conditions complètement précaires. On pourrait parler d'esclavage du 21e siècle. Vous avez de l'eau maintenant?
On a...
Comment ça s'appelle?
Un pozo.
Un puits. Oui, on a un puits, mais on ne peut pas boire. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ça va s'arranger, parce qu'on maintient la pression et on va finir par vous fournir des logements, parce que les politiciens, le gouvernement veut agir sur la question des exploitations de fraises. Avec d'autres ONG, on a beaucoup insisté pour qu'ils vous donnent un logement, des papiers, pour que vous obteniez un vrai travail et que vous puissiez vivre comme des humains. Il faut en finir avec cette villa dans la fournaise l'été. Il faut qu'ils vous embauchent, mais ça va s'arranger, ça va changer.
Moi, ça fait un an que j'attends mes papiers.
Des Marocains?
Des Marocains, oui.
Quelle ville au Maroc?
El Casablanca.
Et
il te paye combien, ton employeur? Quel est ton salaire?
45 euros al sueldo.
45 euros selon le jour. Oui, par jour. Mais parfois, c'est 50. Pour 7 heures de travail, pour ramasser les fraises et les myrtilles.
Pero la gente trae l'agua del pozo.
Tout est irrigué grâce au puits.
Et l'agua del pozo no puede beberla. Está
Mais on ne peut pas boire cette eau du puits.
Muy mala.
C'est très mauvais.
El campo también no bebe agua del campo. Yo bebo agua del.
Je ne peux pas boire l'eau des champs. Je bois celle du supermarché.
Pero no taxi no nada. Solamente la gente tiene papeles en el coche.
Pour en acheter, il n'y a pas de taxi, mais je demande à une personne qui a des papiers et un permis. Je paye 3 euros. À l'aller-retour, 6 euros.
Et tu, quel est ton nom?
Mustafa.
Mustafa.
Mira, voy a filtrar el pelo, después voy al mugue.
Ok, merci.
Écoutez, maintenant, je vais me laver les cheveux. Et après, je pars travailler.
Là, on se trouve dans la ville d'Almonte et on va rencontrer un homme qui est justement agriculteur et aussi porte-parole de l'association des agriculteurs. Il n'y a que lui qui s'exprime car les agriculteurs ici du coin ont reçu beaucoup de pression Et donc aujourd'hui, ils sont assez frileux à l'idée de s'exprimer. Et donc c'est pour ça qu'on va voir Manuel. Et il va nous expliquer un petit peu comment faire face à ce problème lorsqu'on est agriculteur et qu'on a besoin d'eau pour continuer à cultiver toutes ces exploitations de fruits rouges.
Oui, je suis Manuel Delgado. Je suis le porte-parole de l'association des agriculteurs de la Puerta de Doñana.
Combien d'agriculteurs se sont regroupés dans votre association, justement ?
Pour nous, il serait plus juste de parler non pas du nombre d'agriculteurs, mais des hectares de culture cultivés. Nous représentons environ 4000 hectares de culture de fruits rouges.
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ce conflit, entre guillemets, dans cette situation qui oppose des intérêts différents ?
C'est très tendu en ce moment. Comme on manque d'eau, on doit renoncer à continuer nos récoltes. Et forcément, si vous arrêtez aussitôt dans la saison, vous n'obtenez pas le rendement attendu. Si vous prévoyez une exploitation sur 6 mois et que vous devez arrêter au bout de 5, on perd de l'argent. Le type de culture qu'on fait ici demande beaucoup de main d'œuvre. Donc si on stoppe nos récoltes plus tôt, le travail se terminera aussi plus tôt pour les travailleurs. Nous, d'un point de vue économique, on peut s'en sortir, mais pour eux, c'est plus compliqué car ils perdent leur emploi 1 mois avant ce qui était prévu.
Comment ça se passe aujourd'hui pour ces agriculteurs qui ont besoin de cette eau qui devient très rare? La agua está más en más complicado buscarla.
Il y a un an, fin mars, début avril, 30% environ des fermes n'étaient plus exploitées à cause de la sécheresse, car l'eau destinée à ces parcelles était déjà utilisée et nous n'avons pas le droit de dépasser la limite autorisée par le gouvernement. On a le droit chaque année à 4500 m3 par hectare et nous ne pouvons pas la dépasser quoi qu'il arrive. Donc, cette réglementation garantit la viabilité de l'aquifère de Doñana et du parc national lui-même.
Est-ce que les autorités sont d'accord avec ce système d'autorégulation, d'autorégulation ?
Non, es que este sistema es impuesto por parte de la administración. Ellos son los que nos imponen.
Ces quotas sont imposés par des directives administratives qui nous précisent chaque année quelle quantité d'eau nous pouvons extraire. Ce qu'on aimerait, c'est que la quantité reste la même, mais ce n'est pas souvent le cas. Bon, jusqu'à présent, ça n'a pas trop changé, mais si la sécheresse persiste, nos ressources en eau seront réduites. Nous utilisons cette capacité de 4500 m3 depuis plusieurs années. Et si nous avons besoin de plus d'eau, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Nous aimerions, comme tout le monde, en avoir plus, bien sûr, pour nous soulager. Mais nous comprenons que ce n'est pas possible. On doit faire avec.
Il y a justement ces puits illégaux dont parlent certaines personnes. Est-ce que ça existe ici? Est-ce que les agriculteurs utilisent l'eau sans la déclarer?
Évidemment, il y a des cultures dont la production est illégale, qui puisent de l'eau de manière irrégulière. Si une ferme n'est pas autorisée à cultiver et cultive quand même, l'eau qu'elle utilise pour cultiver, elle l'extrait bien de quelque part. Et d'où?
Évidemment, de un pozo.
Des puits illégaux.
Toute exploitation.
Toute exploitation irrégulière est due à l'utilisation d'un puits illégal. Cela ne fait aucun doute. Mais je vous le dis, le problème, c'est que nous considérons qu'il y a beaucoup de fermes qui cultivent illégalement parce qu'elles n'ont pas encore reçu d'autorisation pour utiliser leur puits.
Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui pour que ce problème s'arrange le mieux possible ?
La première chose que nous exigeons, c'est la rapidité, notamment pour pouvoir mettre fin à l'incertitude qui règne chez tout le monde. Nous voulons qu'on publie vite les règles de bonne conduite et qu'on nous donne les accords pour repartir sur de bonnes bases.
Est-ce que vous êtes préoccupé par l'avenir de ce parc ?
Bien sûr, ce n'est pas nouveau. Gardez à l'esprit que sur les 82 000 hectares de la commune d'Almonte, plus de la moitié appartiennent au parc national. Et pour nous, la valeur ajoutée du parc est très importante. L'Espagne produit ces excellents fruits précisément grâce à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Le fait d'être dans une nature privilégiée, totalement exempte de pollution, rend nos produits extraordinaires et nous le savons.
Pour pouvoir voir cette eau, il faut aller un peu plus loin, s'éloigner des exploitations de fraises et rejoindre un petit village qui s'appelle El Rocío. Et c'est dans ce village qu'on voit notamment des marécages qui sont encore visibles car il y a encore un peu d'eau dans cette zone du parc. Ailleurs, c'est totalement la sécheresse. Et il y a devant ces marécages, aujourd'hui, des touristes et aussi des photographes.
Nous sommes venus faire un inventaire pour le suivi de la population animale.
Dans la zone endémique du parc, c'est un bon observatoire.
C'est un haut lieu de biodiversité pour les oiseaux qui viennent ici de toute l'Europe pour hiberner, des oiseaux que nous ne pouvons pas voir souvent ailleurs en Espagne. Nous venons donc les observer maintenant. C'est le moment où le lagon est rempli, alors que le reste de l'année, comme il y a beaucoup de sécheresse en été et que ça dure depuis des années, le lagon s'assèche très vite. On est donc en train de perdre beaucoup, beaucoup d'espèces qui resteraient là bien plus longtemps si elles le pouvaient. Et ça nous inquiète. On fait aussi des images pour mettre en avant ce qui se trouve ici, puis nous les partageons sur les réseaux sociaux en indiquant le lieu. C'est quelque chose qui plaît. Grâce à la beauté de ces photos, les gens s'intéressent au problème. C'est un moyen de le rendre visible et de le faire connaître, même si certaines personnes en entendent aussi parler à la télé.
Le but, c'est vraiment de partager nos photos. Les gens ne connaissent pas ce qu'il y a autour d'eux, les espèces animales. Ils ne savent ni ce qu'ils doivent protéger, ni comment agir. Le fait de s'adresser à une communauté sur les réseaux sociaux qui n'est pas trop impliquée dans ces questions, au final, c'est comme si on lui envoyait un message. Regardez quel bel oiseau! Et l'internaute peut s'y attacher. C'est le premier pas pour que les gens commencent à comprendre le problème.
Susciter des émotions, c'est un moyen très important de toucher les gens. C'est une autre manière d'agir. On ne le fait pas en manifestant devant le Parlement, mais avec des photographies qui montrent qu'il y a quelque chose de beau à valoriser et à protéger. De nombreuses espèces dont les populations sont en déclin. Par exemple, le lavetor commun, un oiseau qui se reproduisait et s'établissait souvent l'hiver ici, mais qui est devenu aujourd'hui très très rare. Cette année, il a donc été déclaré oiseau de l'année de l'Espagne. Des fonds seront alloués pour le protéger, pour essayer de prendre soin des écosystèmes, tels que les zones humides, qui sont les plus importantes pour cette espèce. Cette réserve d'eau pour les animaux se maintient avec la pluie, mais aujourd'hui, elle est utilisée pour l'agriculture, alors qu'elle ne le devrait pas. Il y a à la base déjà tellement peu d'eau pour la seule nature. On est biologiste, on travaille dans le domaine de la conservation. On est inquiet, bien sûr, pour cet écosystème. Si nous voyons quelque chose se dégrader, cela nous attriste et nous inquiète. Ici se trouve tout ce que nous aimons et tout ce que nous voulons protéger. J'essaie de voir s'il y a différents canards ou un petit oiseau qui vient boire, mais on s'adapte à ce qu'il y a.
Ici, ce sont des canards qui ne sont pas vraiment typiques des zones humides. Ce sont des oiseaux difficiles à voir.
Ce sont des canards à très longue queue, pato de rabo, comme leur nom l'indique, à queue claire. Et on voit aussi des oiseaux aquatiques. On observe s'ils arrivent à capturer leur proie ou si l'un d'entre eux est tombé malade. On photographie aussi beaucoup de rapaces comme l'aigle impérial ibérique, un oiseau endémique de la péninsule ibérique qui est très important pour nous. Ou des oiseaux rares qui viennent d'Europe de l'Est et qui doivent hiberner dans les zones humides comme ici.
Le parc est dans un état dramatique, très sec.
On est en hiver et il pleut à peine. La seule eau qui reste visible est ici, dans la ville de Rocio. C'est une petite surface d'eau qui représente 2% du marais. Sinon, il n'y a plus rien. 98% du marais est asséché.
Est-ce que vous pouvez simplement vous présenter ?
Je suis Felipe Fuentes,
coordinateur du bureau du WWF à Doñana.
Comment on explique cette catastrophe naturelle, en quelque sorte, qui s'annonce ?
Actuellement, le facteur le plus limitant, le plus terrible, c'est l'absence de pluie. Ces dernières années, nous avons été bien en dessous de la moyenne, ce qui fait que la sécheresse dans le sud de l'Europe en général et le sud de l'Espagne en particulier, en l'occurrence à Doñana, est assez préoccupante. En 30 ans, on n'a jamais connu une telle situation. Et si on ajoute qu'autour du parc, on pompe beaucoup d'eau pour l'agriculture, ça empêche les aquifères et les rivières de se régénérer, ce qui rend la situation encore plus tragique.
Quelle est la situation concrètement pour les animaux, par exemple?
De nombreux petits lagons ont disparu, les amphibiens, les poissons sont en grave danger, donc la situation est délicate du point de vue environnemental. Ce qui veut dire que tant que nous ne trouverons pas un équilibre entre les différentes pratiques et que les administrations ne fermeront pas les puits illégaux, Doñana ne pourra pas survivre. Il faut vraiment augmenter les projets de préservation de l'eau et rendre les citoyens attentifs, cohérents, pour qu'ils veillent à la conservation de leur patrimoine. Car en fin de compte, c'est notre bien commun à tous.
Est-ce que c'est une décision politique plus que tout en réalité ?
C'est avant tout une décision politique, mais elle concerne aussi toute la société. Ici, ceux qui consomment le plus d'eau, ce sont les agriculteurs. Ce sont donc eux, en premier, qui doivent prendre des mesures pour essayer de réduire au maximum leur consommation et non pour augmenter encore et toujours les hectares de terres irriguées. Il faut essayer de ralentir l'expansion des terres cultivées qui a eu lieu ces dernières années. Le problème, c'est qu'en fin de compte, les agriculteurs et les administrations, mais aussi les politiques, ont souvent une vision à très court terme. Les exploitants agricoles essayent d'obtenir le maximum de rentabilité possible et les partis politiques cherchent avant toute chose à remporter les élections locales. Mais nous devons avoir une vision à long terme. La manière dont on cultive et dont on utilise l'eau dans l'environnement de Doñana ne sont pas tenables. On se trompe complètement, car si on continue à ce niveau d'extraction et à ce niveau de culture intensive, on ne pourra plus rien faire de cette terre dans 10 ou 15 ans.
Est-ce que le parc peut être sauvé ou il y a des conséquences dramatiques actuellement ?
Il y a des choses qui ne peuvent plus être sauvées. Doñana ne redeviendra jamais le marais de Guadalquivir tel qu'il était il y a 100 ans. On est vraiment à un moment de bascule, à un point de non-retour. Et si nous ne parvenons pas à mettre en œuvre des actions urgentes, le peu de nature qui reste à Doñana disparaîtra. Nous devons donc intervenir dès aujourd'hui et de manière cohérente pour essayer de sauver autant que possible ce qui peut l'être. Il faut miser sur un autre type d'économie. Le ministère a lancé un plan pour tenter de trouver un autre type de développement, une autre activité économique. Voyons ce qui en découlera. Mais on sait déjà que le projet sera de diversifier les pratiques, car tout basé sur l'agriculture irriguée, en sachant que nous n'aurons plus d'eau dans le futur, c'est un peu fou. On est toujours frustré quand les problèmes ne sont pas résolus, même après de nombreuses années, ou quand on voit que l'administration propose des plans qui vont à l'encontre des intérêts pour sauver Doñana. Mais au final, nous avons toujours de petites victoires ou des personnes qui nous soutiennent, et c'est ça qui fait que l'on continue de lutter.
Est-ce que l'aide européenne peut aussi changer quelque chose dans ce parc espagnol ?
Eh bien oui, c'est un soutien très important. La Commission européenne a engagé une procédure d'infraction envers le gouvernement espagnol concernant le marais de Doñana. Des organisations internationales comme l'UNESCO sont aussi préoccupées par ce qui se passe à Doñana, sans oublier le rôle des supermarchés européens. Les consommateurs sont très inquiets et ils s'interrogent sur leur manière de se nourrir. Par exemple, les chaînes suisses Migros et Coop ont mené une enquête sur le processus de fabrication de certains aliments et ont analysé la légalité de l'utilisation de l'eau par leurs fournisseurs. Elles sont les premières à le faire et au niveau européen, le soutien de nombreux secteurs est essentiel, car les supermarchés peuvent vraiment demander aux fournisseurs, aux fermes avec lesquelles ils travaillent, des documents sur la manière dont est utilisée l'eau. Si elle est extraite légalement, alors ils peuvent acheter ces produits. Mais si ce n'est pas le cas, ils n'achètent pas. C'est aussi simple que de vérifier s'ils respectent les lois et les droits environnementaux. Ce que font les grandes surfaces est une première étape, une étape qui a commencé il y a une dizaine d'années grâce à ces supermarchés suisses.
Ça peut être un modèle pour d'autres pays ?
Oui, bien entendu, c'est un modèle qui doit donner envie à d'autres pays de faire des choses similaires.